Chapitre 45. Il pleut, au plus fort de l'hiver. Des traits d'eau pénétrants comme des poignards, si froids qu'aucun vêtement ne résiste à leur morsure. Aujourd'hui, on enterre un flic. L'être parti dans l'exercice de ses fonctions impose un respect silencieux. Pas un seul des officiers, brigadiers, gardiens de la paix présents n'ose dévier le regard. Tous fixent ce drapeau qui s'affaisse sur son étendard. La plupart d'entre eux ne connaissent pas la victime. Pierre Norman pleure. Ses larmes se mêlent au ruban noir de ses souvenirs et lui rappellent que l'existence n'est qu'une poussière, une bulle de vie dans l'océan du monde. Les bons meurent, les méchants se multiplient. Il en va ainsi. On se donne juste des illusions en pensant qu'un jour, ce pour quoi l'on œuvre aura servi. Une femme avance lentement, au loin, au milieu des tombes grises et blanches. Elle demeure un moment en retrait au pied d'un sycomore, puis se décide à rejoindre le cortège. La pluie redouble de violence. Serrée dans un uniforme noir, elle se glisse sous le parapluie du lieutenant et se pelotonne contre lui. À ses côtés, elle se sent bien. Elle sait que c'est réciproque. « C'était un bon flic », souffle-t-elle à son oreille. « Tout le monde l'appréciait. Les coupables paieront toute leur vie. » Pierre Norman la regarde sans lui répondre. La femme déchiffre dans ses prunelles un embrasement furieux. Son silence porte la marque d'une amertume infinie. Il est comme ça, Pierre, tout en rupture. Solide à l'extérieur, fracassé à l'intérieur. Un flic, quoi. Colin est allé jusqu'à sacrifier sa famille pour son métier, finit-il par dire d'une voix peinée. Il y croyait tellement. Une stupide intervention pour une bagarre, et voilà comment ça se termine. Pierre est à fleur de peau. Lucie lui prend la main, la serre dans les siennes. La mort ne frappe pas toujours là où on l'attend. En cet instant, il mesure toute la portée de ces quelques mots. Colin, croyant retourner chez lui après une intervention banale, comme il y en a 10 par jour et qui ne rentrera jamais. Lucie, qui s'était vue morte, le beretta sur la tempe, juste avant que Pierre n'ouvre le feu et tue Viviane Delahaye. Tant de destins chavirés. Lucie relève le menton. Elle se retient de pleurer. Colin. Elle lui doit la vie, en définitive. C'était lui qui avait appelé Pierre, occupé autour du cadavre carbonisé de Viggo Novak, pour lui raconter que Vervec avait, plus jeune, travaillé à la SPA de Petite-Sainte. C'était grâce à ce coup de fil que Pierre s'était souvenu des adresses entreaperçues sur l'écran de Lucie et qu'il avait remonté la piste. Petite-Sainte, Corneille la vétérinaire, l'affiche de Delahaye laissée en évidence sur l'ordinateur, Eperlec, puis les caves lugubres. Tout s'était enchaîné si vite. Sagement assises dans leur parc, Clara et Juliette agitent des hochets. 7 mois après leur naissance, les mignonnes commencent à faire leur nuit. Enfin presque. Les premières dents pointent leur émail et les tiraillent de douleur. Alors il faut se lever, encore, et les consoler jusqu'à ce que le sommeil les emporte. Pierre est très doué en matière de câlins. La maman observe la ligne de vie de sa main droite, ce sillon qui creuse sa paume comme une lame de faux. Dis, tu crois qu'elle ressemblait à quoi, la ligne de vie de Viviane Delahaye? Pierre Norman ferme lentement les yeux et soupire. Alors maintenant, les lignes de vie. Ça fait presque 3 semaines que cette histoire est terminée, et tu continues avec ça tous les jours. Arrête, s'il te plaît. Lucie ne l'écoute même pas, se parlant à elle-même, promenant son index sur sa main. Elle devait être cisaillée de toutes parts. Tant de malheurs. Comment ne pas... Lucie, s'il te plaît. Pierre se lève et s'empare d'un épais dossier sur la table du salon. « Je ne veux plus voir ça, ok? Cette histoire est terminée !» Énervé, il lance le pavé devant lui. Des feuillets volent en tous sens. Norman remarque alors un carnet qui dépasse d'une pochette mal fermée, un de ceux que Lucie possède dans ses tiroirs. Il l'attrape, en tourne les pages. « Laisse ce carnet !» Pierre s'éloigne et se met à lire à voix haute. À 18 ans, Viviane Delahaye récupère son héritage, réinvestit la maison familiale au cœur de la forêt, brûle tout ce qui concerne son père, photos, papiers, effets personnels. Puis Viviane... Il foudroie la jeune femme du regard. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tout ce qui s'est produit ne t'a pas suffi? Pierre, je t'en prie, ces écrits n'appartiennent qu'à moi, comme tout le reste ici, hein, c'est ça?
Norman fronce les sourcils et poursuit sa lecture. Viviane s'inscrit en faculté de médecine où elle s'oppose à l'autorité de ses professeurs, des hommes pour la plupart. Malgré un don naturel pour les pratiques médicales, elle est renvoyée. Elle vivote alors de petits boulots, devient femme de ménage dans des entreprises de la zone industrielle et même au commissariat de Dunkerque où elle ne croise que l'aube. Pierre tourne la page. L'écriture est nerveuse mais très aérée. Une situation idéale pour quelqu'un qui ne supporte plus le regard des mâles sur son corps magnifique. Elle apprend aussi à se vieillir, à se cacher sous des masques, des implants de latex, des perruques qu'elle confectionne. C'est alors qu'elle se met à naturaliser des animaux, jour et nuit. Elle ressent le besoin de conserver des bêtes, de les soustraire à l'épreuve du temps. Puis, lorsqu'elle étouffe la petite Cunard, elle se rend compte que tuer des humains n'est pas si différent de tuer des animaux, et... Pierre arrête de lire et secoue la tête de dépit. Il y en a des pages et des pages. À certains endroits, des articles de presse pliés et collés sur le papier. Jeannine Delahaye, assassinée en pleine forêt par son mari, ou encore le calvaire d'une fillette enfermée avec le cadavre de sa mère. « Pourquoi as-tu écrit tout ça ?» lance Pierre d'une voix dure. « À quoi ça rime ?» Lucie tente de lui reprendre le carnet, mais il l'en empêche. « Pourquoi, Lucie ? Pourquoi ?»«
Mais parce que je voulais savoir, comprendre cette femme. »
Norman hausse les épaules.
« Comprendre cette femme ?» Merde, Lucie, je l'ai butée, nom de Dieu, et elle a failli en faire autant avec toi, y a rien à comprendre. »
Son visage d'ordinaire si pâle vire au rouge. Sur les pages du carnet, d'autres termes morbides. Cœur, poumon, rein, cadavre, artère, mort, fragonard. Ses pupilles se fixent soudain sur une phrase, inscrite en majuscule au bas de la page. La chambre des morts. La chambre des morts, répète-t-il. « La chambre des morts !» Il lâche le carnet sur le sol et se laisse choir sur le sofa, exaspéré. Lucie se précipite à ses côtés.
« Oui, Pierre, la chambre des morts. Cette pièce chauffée dans les caves représentait l'ensemble de ses peurs et de ses joies d'enfance. Le loup hurlant que tous les enfants craignent, ces mouches qui rôdaient autour d'elle après la mort de sa mère, puis des images plus douces comme les poupées dans le lit, l'univers rassurant des petits animaux à l'aspect affectueux, capucins, kangourous... Quelle symbolique extraordinaire! À l'image des caves et des galeries glaciales, son cerveau n'était peuplé que de douleur et de haine. Au milieu de cette matière dantesque, cette pièce minuscule, très chaude, la seule pointe d'humanité qui persistait encore en elle. La chambre des morts.
Pierre n'en revient pas. D'un jour à l'autre, Lucie lui semble différente. Il se demande s'il réussira jamais à la comprendre.
Ne m'en veux pas, lui glisse-t-elle à l'oreille. Il fallait juste que j'aille au bout de cette histoire. Ce carnet, je vais le ranger dans un tiroir et ne plus jamais y toucher.
Pierre désigne un épais grimoire. J'aimerais que tu fasses aussi disparaître ce livre. Lucie se lève, souffle sur la couverture de l'Anatomia Magistri Nicolae Physici et le pose sur une étagère, au-dessus de l'armoire aux vitres teintées.
Il y a quand même du positif dans tout ça, dit Lucie,
éprouvant le besoin de se rattraper.
Cette femme enceinte, ce type, Sylvain Couteur, qu'on a pu arracher de ses griffes.
Du positif, oui. Je te rappelle qu'ils ont retrouvé le gars mort avant son arrivée à l'hôpital, suicidé avec un scalpel, sans oublier la petite Éléonore. J'ose à peine imaginer son calvaire avant que ce monstre ne la... Seigneur, tous ces cadavres pour une histoire d'oseille.
Lucie pose Clara sur les genoux de Pierre et serre Juliette contre sa poitrine.
Le lieutenant se tourne vers les dunes scintillantes. La chaleur de l'enfant apaise sa colère. Par-delà les monts, le ciel traîne ses rouges maladifs vers l'Angleterre.
On va coucher les beautés ? Demande-t-il en inclinant la tête. Histoire de tout oublier, de se garder un petit moment rien qu'à deux. Avant ça, Pierre, je vais te raconter l'histoire la plus extraordinaire que tu aies jamais entendue. Quelque chose qui risque de changer définitivement ta vision du monde. Je voulais t'en parler depuis la mort de Delahaye, mais je n'étais pas prête, et toi non plus, peut-être.
Le policier cligne lentement des yeux. Son cœur bat un peu plus vite.
Je t'écoute, mais évite le morbide, ok ?
Lucie acquiesce.
Plus jeune, mes parents et moi rendions constamment visite à mes grands-parents. Chaque samedi, chaque dimanche, 52 semaines par an. Les pères disputaient une partie de belote. Les mères discutaient et nous, les cousins, cousines, jouions dans la cour derrière la maison. Mon grand-père nous avait formellement interdit d'aller au fond du jardin, où il entretenait son potager sacré. Ceux d'entre nous qui s'y risquaient recevaient une raclée monumentale, alors j'aime autant dire qu'on évitait le coin. Mais une après-midi, nous avons tenté l'aventure. L'un de mes cousins surveillait pendant que le reste de la troupe s'enfonçait sur un long chemin de béton, miné de tessons de bouteilles. Mon grand-père détestait les chats. C'est cruel, mais il ressentait une jouissance de guerrier sanguinaire chaque fois qu'un félin se coupait les coussinets dans ses pièges. Bref, nous avancions prudemment dans ce champ de verre quand un oiseau surgit d'un arbuste m'a déséquilibré. Je suis tombé et là, crac, ma paume droite s'est encastrée dans un tesson. Rien de vraiment méchant, pas de point de suture, mais regarde, la cicatrice est encore visible ici, au tiers de ma ligne de vie, tu la vois ? Norman grimace et acquiesce. 3 jours plus tard, sur la plage de Fort Mahon, mon frère et moi faisons une course, premier arrivé à la mer. Nous nous ruons en direction de l'eau et là, boum, mon pied se prend dans un pâté de sable. Je chute et un coquillage vient se loger dans mon autre paume, la gauche. Nouvelle entaille. « Montre-moi tes paumes, » demande Pierre. Lucie regroupe ses mains, déploie lentement ses doigts. Le lieutenant écarquille les yeux. « C'est ahurissant, au même endroit. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un pur hasard. Tu sais quel âge j'avais ? J'avais 12 ans. Ma première cicatrice est apparue le 12 août 1987, la seconde le 15 août. » Pierre se lève brusquement, Clara dans ses bras. Sa gorge palpite, son cœur s'embrase. « Tu plaisantes, Lucie, tu me fais marcher. Tu demanderas à mes parents ?»« Oui, Pierre, ces cicatrices se sont gravées sur mes mains quand la mère de Viviane Delahaye est morte, presque jour pour jour. » C'est une coïncidence, une pure coïncidence. Mon destin a changé pendant que Delahaye était aux côtés du cadavre de sa mère. C'est à ce moment que l'avenir de cet enfant a été modifié, que la rage l'a gagné et que ça a agi sur ma destinée. Il était écrit dans le marbre que notre affrontement aurait lieu. Une coupure, au tiers de ma ligne de vie. Pierre ne réagit pas. Il est sonné. Lucie lui serre le poignet. J'aurais dû mourir si on en croit ces cicatrices. Tu as réussi à dévier les trajectoires. Il paraît que nous avons tous un ange gardien. Je pense avoir trouvé le mien. Lentement, Lucie baisse la tête et pose un regard sur l'armoire aux vitres teintées. D'un ton très doux, elle ajoute : « Je sais qu'un jour j'aurai les réponses à toutes mes questions. »